Bonjour à tous, ici Yacine, vous écoutez Radio Campus Paris 93.9, c'est Le Gratin, donc je suis à Angoulême pour le Festival International de la Bande Dessinée. Là je suis dans la rue et je me dirige vers un bar, j'ai rendez-vous d'un instant à l'autre avec Laurent Bruel des éditions Matière. Avec lui nous allons parler d'un livre qu'ils ont sorti l'année dernière qui s'appelle Procon. A tout de suite. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre donc, qui s'appelle Procon ?
Procon, c'est un livre norvégien, une bande dessinée norvégienne qui est considérée, semble-t-il, comme la première bande dessinée authentiquement norvégienne publiée en Norvège en 1971 et qu'on vient de republier aux éditions Matière en 2014, qui est une bande dessinée très courte qui met en scène dans une esthétique pop art. Le combat entre une espèce de combat éternel entre le bien et le mal, le bien étant ici incarné par le consumérisme, le capitalisme, que combat une espèce de savant fou, de monstre dégénéré qui entend abolir la consommation et faire tomber la société marchande.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'auteur de cette BD qui s'appelle donc Peter Horse?
C'est Peter Horse. Horse, apparemment on prononce comme ça. C'est un auteur d'origine allemande qui est né en 1940 en Allemagne, qui a émigré assez tôt après ses études d'art, qui a émigré en Norvège et qui a fait sa carrière et qui a vécu toute sa vie en Norvège ensuite. Et qui a fait deux bandes dessinées dans sa vie. Ça ressemble beaucoup à la situation de Guy Pellart, belge émigré en France et qui lui aussi a fait deux bandes dessinées. Deux bandes dessinées pop art pour l'un comme pour l'autre et deux bandes dessinées qui ont profondément marqué leur époque d'une manière dans leur situation respective. Et au-delà de la bande dessinée, Peter Horse a été essentiellement graphiste, enseignant en graphisme, et il a là aussi, est-ce la légende ou en tout cas ce qui se dit aujourd'hui de Peter Horse, c'est qu'il a été à l'origine du graphisme norvégien. Il a été un des tout premiers à élaborer des méthodes, les méthodes qu'on connaît aujourd'hui, les méthodes modernes de graphisme, et à les importer en Norvège, à les développer et puis ensuite à les enseigner. Il était également écrivain, il a écrit pas mal de récits, de nouvelles et de romans de science-fiction, et éditeur. Il menait toutes ses activités de front. Et la bande dessinée là-dedans était une part infime en quantité de travail, une part assez mineure de son travail, mais finalement une part plutôt majeure de son œuvre, en définitive.
D'accord. Qu'est-ce qu'on sait un petit peu de la bande dessinée norvégienne à l'époque et donc du contexte dans lequel il publie cette bande dessinée ?
La bande dessinée norvégienne n'existe pas. C'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai cru savoir après m'être un peu renseigné. La bande dessinée n'existe pas et en Norvège, il y a la bande dessinée américaine qui arrive à l'époque, quoi. Les gens lisent de la bande dessinée d'import et c'est essentiellement de la bande dessinée de comics et de pulp américain. Il n'y a pas d'auteur norvégien et pas d'éditeur de bande dessinée norvégienne à ce moment-là. Et c'est vraiment considéré, c'est les années 60 et c'est considéré comme chez nous à l'époque comme de la sous-production de sous-culture prolétarienne, quoi. Et ça n'a absolument aucun intérêt aux yeux des élites et aucune légitimité culturelle. Peter Horse s'en empare précisément pour ces raisons-là de la bande dessinée. D'abord parce qu'il est graphiste, évidemment, et excellent dessinateur. Et puis parce que ce qui l'intéresse, c'est de travailler au sein de ce média de diffusion de masse et de diffusion prolétarienne. C'était quelqu'un qui était très marqué par le marxisme, très connaisseur et amateur de l'œuvre de Bertolt Brecht, par exemple. Ce qu'il veut, lui, c'est ranimer le vieux spectre qui hante l'Europe. Il veut bouger les masses et les bouger avec les moyens que les masses aiment et adoptent. C'est la science-fiction, c'est la bande dessinée, c'est tous les sous-genres culturels, les sous-produits.
Oui, c'est un graphiste qui s'est pas mal illustré dans ce qui était mal considéré à l'époque, puisqu'il a fait de la bande dessinée dans les années 70. Il a fait aussi illustrer beaucoup de couvertures, de romans, de SF, des choses comme ça. Donc, en plus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une culture graphique, quoi, qui a l'air très très au courant de ce qui se fait un petit peu partout dans le monde. On ressent pas mal d'influence.
Oui.
En fait, ce qui me frappe dans son travail, c'est qu'il y a une sorte de condensé de l'époque. Quand on regarde l'intégralité de son travail, donc sur son site par exemple, un site qui lui est dédié, on a vraiment une sorte de résumé un petit peu de différentes époques, comme s'il avait réussi à synthétiser plein de choses.
C'est une espèce de Gainsbourg du graphisme, quoi. À chaque fois, il s'empare de ce qui se fait de mieux autour de lui, et puis il le porte à un point d'excellence technique, esthétique. Il sait en tirer l'essentiel, quoi. Aujourd'hui, quand on regarde son travail, ça fait l'essentiel de sa production des années 60-70 fait fortement penser à ce que faisait Roman Cislevich à la même époque en Pologne, par exemple, en Pologne et à Paris. Et on a l'impression d'être, sans l'avoir jamais connu, on a l'impression d'être qu'il a pleinement participé, et c'est le cas certainement en Norvège, dans les pays nordiques, mais sans que son œuvre nous soit parvenue à nous directement, on a l'impression de la connaître aussi, qu'elle fait partie de nos références et de notre univers culturel connu. Ouais.
Oui, c'est vraiment ça. Elle nous parle directement. Il n'y a pas de particularité norvégienne. Enfin, on n'a pas l'impression. Est-ce qu'on peut aussi un petit peu parler du style graphique de la bande dessinée, ce côté très pop art, mais en même temps avec une approche, une stylisation assez bizarroïde quand même.
Bah, la grande référence avouée de Peter Horst pour le dessin de ses bandes dessinées, c'est Roy Lichtenstein, ça c'est très clair, il s'en ouvre, il le déclare, c'est Lichtenstein, et en même temps c'est un Lichtenstein très teinté de psychédélisme, quoi. Il y a comme ça, comme chez Pellart, des lignes qui s'allongent, des pleins et des déliés qui s'introduisent dans les contours, ce que Lichtenstein n'aurait jamais fait, dans les traits de contours de ses figures. Et c'est ce mélange étrange entre la raideur du pop art et la souplesse, la mollesse même du trait psychédélique.
Je précise quand même, et c'est très important parce que c'est un des aspects qui est assez beau dans le livre, que c'est un livre en noir et blanc.
Ouais, ce que Lichtenstein n'aurait sans doute pas fait non plus. Ouais. C'est un livre entièrement en noir et blanc, très marqué par la présence de la trame, de la transposition de la trame d'impression. C'est un livre tout en trait, c'est du dessin au trait et en point. C'est du noir, du blanc, du noir, du blanc, une succession de noir et de blanc. Il n'y a jamais de zone de... Il n'y a pas de grisé, il n'y a pas de zone aquarellée ou ancrée. C'est vraiment du pur noir et blanc très, très tranché. Ouais. Avec tout un jeu de trames qui viennent introduire des valeurs intermédiaires, des gris intermédiaires. Mais toujours des gris très forts parce que constitués par des trames de points.
Il aime bien aussi créer des répétitions, des superpositions, des décalages.
Il utilise ça, c'est très frappant dans son travail. C'est vraiment un travail pré-numérique, pré-Photoshop. Il travaille au banc repro. C'est ce qui se faisait à l'époque pour travailler les images à partir de photographies et de films. Et il répète, il séquence ses propres dessins. Et plutôt que quand il doit dessiner une petite zone pavillonnaire, et là c'est le cœur du travail, c'est le cœur de ce dont parle Procon. Il parle d'une société où les choses sont fabriquées en série et où les gens vivent une vie très, très uniformisée, très standardisée, mécanisée. Et donc quand il doit représenter une zone pavillonnaire, la ville de Procon, le titre du livre, est en fait le nom de la ville dans laquelle se déroule l'action. La ville de Procon est une ville pavillonnaire où les pavillons ont été copiés-collés par Peter Horst à l'aide du banc repro. Donc ça crée comme ça un effet très très fort de répétition et de mécanisation au cœur même du système graphique de l'ouvrage. Et ce qui évidemment renforce le propos de manière quasi même assez anxiogène, quoi. On est face à... On est immergé dans la machine Procon, dans cette machine à reproduire et à systématiser.
Il y a un autre aspect aussi qui me plaît beaucoup, c'est la stylisation plastique des personnages. On a un petit peu l'impression que, oui, qu'ils sont faux, qu'ils sont factices, que ce sont des sortes de mannequins souvent.
C'est, ouais, alors là, on est prêt, on est chez Kraftwerk quasiment. C'est des mannequins de cire, et c'est des mannequins eux aussi, exactement comme les maisons dans lesquelles ils habitent, c'est des mannequins reproduits à l'identique. Ils s'embarrassent pas, Peter Horst s'embarrasse pas de subtilité. Quand il a un visage, le visage du patron, on est face à plusieurs patrons d'usines dans le livre, et ben tous les patrons ont le même visage, quoi. Ils ont le visage du patronat plus que des visages de patrons. Et ce visage, ben, Ors le reproduit comme ça, comme un masque plaqué par ailleurs sur des costumes et des vêtements ultra conventionnels. Et les personnages sont complètement interchangeables. Ils incarnent des rôles de toute façon. C'est un rôle mécanique dans la comédie de la civilisation qu'il décrit. Ouais.
On en parle de manière très théorique là, présentement, mais en fait, la BD, elle est très facile à lire. Il y a un côté fun, il y a une approche comique qui pourrait faire penser à des choses un petit peu comme Ferraille, un côté parodique, donc ça reste une BD quand même qui dit des choses, mais avec un côté assez enlevé, malgré tout.
Que nos lecteurs se rassurent, c'est une œuvre facile. C'est même un côté, comme chez Ferraille, comme pas mal de productions des Requins Marteaux, il y a un côté grand guignol, très affirmé. C'est effectivement, ça va très vite d'abord. C'est une œuvre où Ors s'embarrasse pas de fioritures ou de digressions ou de il prend jamais trois cases pour planter un décor, quoi. Les choses vont très très vite. Il y a même des ellipses narratives absolument hallucinantes. Parce qu'au bout d'un moment, est-ce qu'il se lasse de son travail, ou est-ce que il estime que les choses sont suffisamment balisées pour ne pas avoir besoin de les dire. En tout cas, il y a un espèce d'énorme raccourci qui est pris comme ça à la fin. Hop, l'œuvre est réglée et on va tout de suite à la conclusion. Et c'est très drôle en fait, cette façon de procéder par grand raccourci, avec tout ce qu'on imagine dans le trou, dans l'ellipse narrative à l'intérieur de cette ellipse. Et qui est au fond inutile. Le fait même de faire cette ellipse est déjà un effet comique assez fort, quoi. Et c'est quelque chose qui est drôle de part en part. C'est à la fois très admirable du point de vue du dessin, très stimulant intellectuellement, comme on vient de l'évoquer un tout petit peu, et en même temps très très premier degré, très très drôle, quoi. Il y a un côté brut de décoffrage comme ça qui était l'effet un effet très auquel Peter Ors tenait beaucoup. C'est l'effet de toute cette culture populaire qu'il adorait, quoi. Il était très fan de King Kong, par exemple, ou de ce qui se ressent dans Procon, très fan des films de Frankenstein avec Boris Karloff, des choses comme ça, des œuvres très monolithiques, très, très simples. Hein. Un personnage, le bien, le mal, une situation emblématique, et puis on déroule une histoire cousue de fil blanc. Puis c'est une histoire de super-héros aussi, ce qu'on n'a pas encore dit. Il y a Ultraman, Ultra-héros qui vient finalement sauver la ville de Procon, la sauver du méchant. Procon, c'est une histoire qui résonne beaucoup avec des vogues actuelles, quoi. Et avec ces espèces de clichés que les gens ont développés autour de la bande dessinée. Ces clichés-là, on se rend compte qu'à 40 ans d'écart, ils sont toujours d'actualité, quoi. Ils sont toujours valables.
Voilà, bah, merci Laurent.
Merci Yacine.
Et salut.
Salut.
Je me sens mal dans ma peau, je peux faire la malilico. Dès que la spicurine ouvre son tiroir, j'ai mon héroïne avec tous les soirs. Je vois la chauve-souris rose, je suis sûr d'avoir ma dose. Un tox, un tox, intoxiqué. Opium, télévisé. Si je n'ai pas de veine, j'ai du pif. Quand je change de chaîne, c'est du kiff. Je me fais les piqûres, forte économique, avec leur figure de barbiturique. Je vois la chauve-souris rose, je sens que j'ai déjà ma dose. Intox, intoxiqué. Opium, des drames, en tournant le dos à mon âme, avec leur programme. Pas besoin de femmes. C'est un CDR qui m'envoie en l'air. Je suis une chauve-souris rose. Je sens que j'ai la super dose. Intox, intox, intoxiqué. Opium, opium, télévisé. Mais j'arrive au bout de mon rouleau quand y a le président au micro. Je suis plus dans la course, sur mon canapé. Je me le tape en douce comme du LSD. Je vois même la vie en rose. J'ai dû dépasser la dose. Intox, intox, intoxiqué.
Écoutez Radio Campus Paris 93.9. On vient d'écouter Jean Ferrat, Intox. J'étais donc en compagnie de Laurent Bruel des éditions Matière. On a évoqué le livre Procon donc de Peter Horst, qu'on peut trouver facilement donc en librairie ou alors sur le site des éditions Matière. Donc ça c'est matière.org. Sinon info, référence, podcast, réécoute, etc. sur le site de Radio Campus Paris.org ou sur mon blog asso-artichaut.blogspot.com. Salut !